Ce Radio Barque numéro 34 est un petit peu spécial aujourd'hui dans la mesure où mon coéquipier habituel Michel Santo est absent parce qu'il a perdu ses cordes vocales, enfin momentanément j'espère. Mais bien entendu, nous utilisons les textes de ses contre-regards publiés sur son blog. Et alors, Michel a écrit donc cette fois-ci un billet sur la communauté de communes catalano-audoise qui s'intitule Corbière-Salanque-Méditerranée, pardon, une communauté de communes qui est écartelée sur deux départements, l'Aude et les PO, mais ça n'est pas le seul problème, c'est que celle-ci, finalement, passe son temps à s'étriller et à étaler un certain nombre de désaccords. Ces communautés de communes, au démarrage, vous, comment voyez-vous, Nicolas Sainte-Cruz, la possibilité de se répartir sur deux départements? C'est un peu nouveau dans la culture française.
Oui, c'est un peu nouveau. Après, si le choix est éclairé, c'est pour des raisons géographique ou de culture commune, voilà, pourquoi pas. Mais c'est vrai que là, on s'aperçoit que c'est un peu, pour l'instant, un échec. Quoi,
voilà. Or, rappelons que ces communautés d'agglomération ont été faites pour mutualiser un certain nombre de choses, compétences. Oui. Et alors là, il semble que dans celle-ci, on est à peu près d'accord sur rien. Et Michel, dans son billet, écrivait, je cite, « Après l'abandon des compétences sociales aux communes, le refus d'une promotion touristique communautaire, celui d'un plan d'urbanisme intercommunal, un schéma de cohérence territoriale en panne et des problèmes récurrents de gestion, ce sont maintenant les compétences en eau et assainissement que cette commune, détenant la minorité de blocage, ont décidé de reporter en 2026, c'est-à-dire beaucoup plus tard. Et il se trouve que si aujourd'hui ces deux compétences-là, l'eau, l'apport de l'eau potable et de l'assainissement, est par exemple dans le Grand Narbonne encore une option, ça va devenir une compétence obligatoire très très prochainement.
Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut vraiment se dépêcher. Donc c'est dommage alors. Après, c'est peut-être pour des raisons aussi électoralistes, parce que c'est vrai que lorsqu'on met les moyens en commun, eh bien, il y a aussi une harmonisation au niveau des coûts.
Et pour certaines communes, c'est plus cher,
et pour d'autres, moins cher. Et donc, il faut lisser, il faut qu'il y ait quand même... voilà, on met tout dans le pot commun, ça, c'est le principe de la solidarité. Hein. Et malheureusement, c'est vrai que certains oublient pourquoi on a créé ces communautés de communes. C'est pour, effectivement, faire des économie de gestion, mais aussi pour être plus fort, hein, dans les investissements. Quand on voit le Grand Narbonne, heureusement que cette compétence est commune et qu'elle est bien utilisée, puisque les moyens qui sont mis dans l'eau et l'assainissement sont considérables.
Oui, par exemple, la construction de stations d'épuration dans de nombreux villages,
bien sûr.
Les communes qui auparavant avaient
et notamment dans les communes aussi touristiques où l'été, eh bien, vous avez un afflux de population qui est très très important. Et si on n'avait pas la capacité financière, eh bien, de faire des investissements et de communs, eh bien ces communes, il y aurait de gros soucis, hein, au niveau de l'environnement en tout cas.
Voilà. Alors habituellement quand même dans ces communautés d'agglomération ou de communes, il y a une cohérence territoriale, c'est-à-dire c'est un territoire qui ressemble à quelque chose. Or celle-ci comprend dans les PO, je crois, Cléra, Pia et Sals-le-Château, et puis un certain nombre de toutes petites communes du sud du département, Tuchan, Pasiol, Duyac, Soulatch, Montgaillard, Fonjoncouz, etc. Donc là, d'emblée, on voit...
Ça ressemble à un mariage forcé, un peu, finalement.
Hein. Oui,
Le mariage forcé, ça marche pas, à un moment donné.
Et sur une frontière tout à fait bizarre, ce qui fait que, bien, aujourd'hui, une fois de plus, ça a donné l'occasion à Michel Santo d'écrire un contre-regard sur cette communauté de communes dont on se demande jusqu'où elle ira.
Oui, non, c'est sûr. Après, vous savez, dans toute communauté d'agglomération ou communauté de communes, il y a toujours des freins. Bon, nous, on n'est pas exemple encore, hein, au niveau de la communauté d'agglomération du Grand Narbonne. Par exemple, on n'a pas encore un plan d'urbanisme intercommunal, par exemple.
Oui,
ça sera certainement à mettre sur le tapis un jour. Hein. Je crois que c'est le sens de l'histoire. Nous avons une promotion, par contre, touristique communautaire. Mais vous savez qu'il y a, par exemple, trois communes
qui,
pour l'instant, n'y sont pas. Vous n'avez quand même pas Narbonne, vous n'avez pas Le Cat, vous n'avez pas Gruissant. Donc il y a quand même encore beaucoup de travail
beaucoup de contradictions et de paradoxes.
Voilà, finalement. Parce que c'est vrai que moi je comprends que les maires ont peur en fait de perdre le pouvoir, Et c'est pour ça qu'effectivement, finalement, ils se regroupent, mais pour conserver leur souveraineté, entre guillemets. Vous savez, c'est comme le débat qu'il y a au niveau national. Hein. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté dans un monde qui devient de plus en plus compliqué, complexe, et on a tendance à vouloir se replier. Or, dans des communautés de communes et communautés d'agglomération, on ne peut pas du tout avoir la même pensée. Au contraire, il faut qu'on réunisse les moyens pour être beaucoup plus fort, parce qu'on a des investissements très, très, très lourds. Si on prend, par exemple, la gestion des ports, lorsqu'on devra faire des investissements lourds dans les ports, si on n'est pas tous liés, comment fera-t-on?
Voilà. Exemple, la nouvelle pour nous,
et même la nautique sur Narbonne.
Ça n'est qu'un exemple. Donc une petite réflexion sur ces communautés de communes, et notamment celle-ci dont je rappelle qu'elle se nomme communauté de Corbière. Salanque Méditerranée. Salanque parce que c'est du côté catalan, et Corbière parce que c'est du côté, encore une fois, c'est l'ancienne ligne Maginot de défense des châteaux dits cathares.
C'est ça.
Avec celui de
avec un très bon représentant,
celui
avec,
de Kéribus,
avec Sébastien Plat.
Et Sébastien Plat, qui d'ailleurs était à ce micro il n'y a pas si longtemps et qui nous avait entretenu sur ces choses-là. Deuxième, billet écrit parmi Michel, que nous allons reprendre aujourd'hui, c'est au Parlement la discussion sur le projet de loi mobilité. Alors, mobilité, c'est un mot pour décrire les transports plus...
Oui, parce que en fait, on s'aperçoit que quand on veut traiter le problème du réchauffement climatique et des énergies, c'est 60%, c'est la mobilité, c'est-à-dire c'est les déplacements. Mais... Donc effectivement, si on prend pas de mesures dans ce domaine-là, il est inutile de vouloir faire baisser les températures au niveau international.
Voilà. Alors là, il y a deux propositions que Michel avait relevées dans son billet. La première, c'est un amendement qui est proposé par la députée écologiste Delphine Bateau, et qui consiste, je cite, à interdire tout vol intérieur vers des destinations réelles reliées par le train en moins de 5 heures. Une seconde proposition, c'est une proposition de loi alors de l'insoumis François Ruffin, qui lui verrait ou demanderait qu'on interdise les lignes aériennes lorsqu'un autre mode de transport permet d'effectuer le même voyage avec au maximum 2h30 de plus que le 30 vols effectifs d'un avion. C'est un peu compliqué, mais ça va un petit peu dans le même sens quand même. L'idée, c'est de prendre beaucoup moins l'avion. Pourquoi ? Eh bien parce que selon, alors là je cite mot à mot, selon l'éco-calculateur de la direction de l'aviation civile, un aller-retour Paris-Marseille en avion émet 195 kg de CO2 par passager, et ce même aller-retour effectué en TGV en émet 4,14, soit près de 50 fois moins. Ce sont des chiffres, bon, scientifiques, qui laissent un peu pantois, mais qui montrent quand même que, évidemment, l'avion, aujourd'hui, c'est, on le sait, c'est quelque chose qui pollue énormément.
Oui, tout à fait, ça pollue énormément, parce que les consommations sont considérables, et très peu taxées, d'ailleurs, hein, puisque là aussi, il y a un débat sur le problème de la taxation. Mais, et puis, on sait très bien qu'on développe aussi le tourisme, et le tourisme, ça passe aujourd'hui surtout par les avions et les gros navires aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses à faire au niveau intérieur. Moi je comprends parfaitement, surtout que quand vous prenez l'avion, en principe, il faut être présent entre une heure voire deux heures à l'avance. Donc forcément, finalement, le gain, entre guillemets, est réduit, puisque après aussi, quand vous allez à l'aéroport, vous allez à tel autre endroit, ben, il vous faut peut-être
des
encore
déplacements,
45
oui.
minutes de voiture.
Il faut au moins...
Ce qui fait que finalement, vous avez très peu de gains, et la différence aussi avec le train, c'est que dans le train, vous pouvez travailler, par exemple, ou vaquer à vos occupations, ce qui n'est pas le cas dans un avion, hein, puisque donc du coup, c'est vrai que je trouve que c'est une proposition intéressante à partir du moment où on crée les conditions.
C'est-à-dire oui, que, voilà,
parce que si on crée pas les conditions et si on le fait pas de manière, ça peut pas être fait du jour au lendemain. Il faut le préparer, hein, parce que forcément, ça fait des fermetures aussi, des emplois en moins dans l'aviation dans certains endroits. Et puis, il faut surtout avoir les lignes qu'il faut aussi. Quand je vois qu'aujourd'hui, on parle par exemple, de supprimer la ligne Perpignan-Rungis pour les marchandises. Hein,
ça laisse. Là encore, on est quand même dans le paradoxe complet.
Un gros paradoxe. Hein. Mm. Il faut quand même, voilà, le train. Il faut savoir que, par exemple, le train de marchandises depuis ces 20 dernières années a particulièrement diminué.
Absolument. Mais de manière au bénéfice des camions.
Voilà, des camions. Et puis il y a eu des cars aussi Macron. Oui. Donc je crois qu'à un moment donné, il va falloir arrêter d'être contradictoire, d'avoir des paroles où on dit on veut lutter contre le réchauffement climatique, on veut des mesures positives pour l'environnement, et finalement faire le contraire dans les actes.
Et avant de marquer une deuxième pause, alors je signale un petit truc que je trouve intéressant. Les Suédois, paraît-il, ont inventé un nouveau mot qui veut dire la honte de prendre l'avion. C'est-à-dire que c'est une mentalité qui, semble-t-il, se développe chez eux, qui va tout à fait dans ce sens-là, parce qu'ils ont pris conscience apparemment que ça pollue 50 fois plus que le train, selon les chiffres qu'on a cités tout à l'heure. Et donc, ils ont cette notion de prendre l'avion aujourd'hui, c'est quelque chose de... Enfin, prendre l'avion, surtout quand on peut s'en dispenser, c'est quelque chose d'un petit peu honteux, c'est une sorte d'incivilité. Et ils ont inventé un mot qui est suédois, que je ne vous livrerai pas, qu'on va sans doute retrouver en anglais très probablement bientôt, mais qui va tout à fait dans le sens de cette notion-là. Sachons-le aujourd'hui, prendre l'avion, c'est bien, mais ça pollue énormément.
Tout à fait.
Une deuxième pause après laquelle on vous retrouve, Nicolas Saint-Cluc, mais cette fois-ci en tant qu'invité.